Radio Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour. Jacques-Yves Molima pour cette édition du journal. Voici les temps forts de l'actualité. 7 des 8 victimes de l'explosion du camion citerne de Mbouba au Congo central enterré dans une fosse commune. Cela a indigné les populations. Mais l'administratrice adjointe de Madimba parle de beaucoup de contraintes qui expliquent cette situation. Et puis évasion à répétition dans les lieux de détention de la commune rurale de Fungurume au Lualaba. La société civile locale s'est dit préoccupée et demande au service de sécurité de rattraper les évadés. Enfin, la gratuité de l'enseignement peine à se mettre en place dans certaines écoles de Lubumbashi 2 semaines après la rentrée scolaire. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal l'inspecteur provincial principal du Haut-Katanga 1, Grégoire Mouka. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au Congo central, les images de l'inhumation des victimes de l'explosion du camion citerne survenue dans l'agglomération de Mbouba, dans les territoires de Madimba, défrayent la chronique ce week-end. Plusieurs voix s'élèvent sur les réseaux sociaux jugeant inhumain le fait que 7 des 8 victimes aient été enterrées dans une fosse commune. Mais Alphonsine Ngombe, administratrice adjointe du territoire de Madimba, lit ce mode d'inhumation le même jour du drame à plusieurs contraintes, notamment le blocage de la route sur la nationale numéro 1 durant plusieurs heures à cause de ce drame, ce qui n'a pas permis l'achat de cercueil. Nana Plurichimambo.
Où donc est passé le respect de mort, une des valeurs de Nekongo? Les autorités n'ont-ils pas de cœur? Pourquoi réserver aux humains de tels obsèques? Ce sont des phrases exprimant les regrets et l'indignation des internautes du Congo central à propos de ces images devenues virales sur les réseaux sociaux ce week-end au Congo central. Sur ces images, on peut voir 7 sacs contenant des corps calcinés en train d'être mis en terre dans une fosse commune. L'administratrice adjointe du territoire que nous avons contactée à ce sujet laisse entendre que cet enterrement n'est pas intervenu hier samedi. Selon elle, ces victimes de l'explosion du camion citerne ont été portées à terre le même jeudi 15 septembre, jour du drame avant le coucher du soleil. Alphonsine Ngombe précise qu'en dehors des raisons liées au manque de moyens financiers, les blocages de la nationale numéro 1 à la suite de ces drames ne permettaient pas l'acheminement des cercueils depuis qu'ils s'entourent. Aussi ajoute-t-elle, le reste de ces victimes ne pouvait aussi être conservé, non seulement à cause de leur état, mais également à cause du fait qu'ils n'étaient pas identifiables. Signalons que 3 autres personnes parmi les brûlés de cette explosion qui recevaient des soins médicaux sont aussi décédées à la suite de leurs brûlures à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, ce qui ramène les bilans à 10 morts. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Et puis, célébration ce samedi 17 septembre 2022 à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, de la messe pour la réconciliation des ethnies Teke et Yaka qui sont en conflit depuis plusieurs mois déjà dans le territoire de Kwamout en province du Maindombe. Cette messe a été organisée par le doyenné de Bandundu et c'est Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba Massi, évêque de Kenge, qui l'a célébré en présence de plusieurs autorités de la province et de la ville. Reportage Irène Nambouma.
Plusieurs personnalités de la province du Kwilu, dont le gouverneur Willy Itchundala, ont aussi pris part à cette messe célébrée samedi à la paroisse catholique Saint-Hippolyte de Bandundu. Cette messe a été dite par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge. Dans une interview accordée à la presse au sortir de la dite célébration, l'orateur du jour a fait savoir que cette messe a pour objet d'implorer la grâce de Dieu Tout-Puissant pour la paix et la réconciliation entre les peuples Teke et Yaka en conflit sanglant depuis un certain temps à Kwamout au Maindombe. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba.
Nous avons prié pour la paix et la justice au Congo et spécialement pour notre territoire de Kwamout. C'est une situation qui nous préoccupe et nous ne pouvons que inviter nos frères à se réconcilier. J'ai voulu inviter tout le monde à se convertir par la parole de Dieu qui nous invite à la paix, à la réconciliation, de vivre en frères et sœurs.
À l'occasion, l'évêque de Kenge a aussi invité les autorités du pays à prendre leurs responsabilités en main pour mettre fin à ces conflits. Notez qu'au cours de ces cultes, plusieurs dons en nature et en espèces ont été collectés en faveur des déplacés de Kwamout en refuge à Bandundu. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis le cadre de concertation de la société civile de Fungurume dans le Lualaba s'est dit préoccupé par les évasions à répétition dans les lieux de détention de cette commune rurale. En l'espace d'une semaine, ce sont plus d'une cinquantaine de détenus qui ont pris le large dans des conditions qui demeurent inexpliquées. Parmi eux se trouvent des grands malfaiteurs. Pour cela, le porte-parole du cadre de concertation de cette structure citoyenne demande aux services de sécurité à les rattraper et à les mettre hors d'état de nuire afin que la population locale retrouve la quiétude. On écoute Gauthier Kavwamba, joint par Jean Gantou.
Dans l'espace d'une semaine, on a assisté à deux évasions. Les circonstances semblent être floues. La première évasion, c'était à 3h du matin. Il y avait deux policières commis à la gare du Cachot, de Kabila 2, quartier d'Ipeta, où il y a eu 11 évadés sur 20. 24, dont 4 mineurs en conflit avec la loi. Et la dernière évasion, c'est ici le 15 septembre, où on a assisté à 42 évadés, condamnés, certains ont violé, certains ont volé. Ils étaient prêts d'attendre certains 3 mois, certains 4 mois dans les cachots, alors que la place d'un prisonnier, c'est à la prison, ce n'est pas au cachot. Et qui attendaient leur acheminement, soit à Louboudi, soit à Kolwezi, selon les forfaits commis. Il y avait également 2 policiers commis à la garde du cachot, du côté parquet. Vraiment, c'est une panique. Il n'y a que 4 qui sont rattrapés. Et donc, nous craignons, en tant que communauté, que ces prisonniers, des lions blessés, qui viennent se rabattre sur la même population, ça sera vraiment compliqué. C'est là que nous appelons les services de sécurité à les rattraper le plus tôt possible et à la population de pouvoir dénoncer.
Autre nouvelle, parlons de cet appel de la famille Joseph Désiré Mobutu Kambalé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à s'impliquer personnellement afin de l'aider à récupérer sa villa assise boulevard du 30 juin au numéro 154 AB ici à Kinshasa. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 17 septembre ici à Kinshasa, Joseph Désiré Mobutu Kambalé a affirmé être en possession de tous les titres officiels de sa villa acquise par sa défunte mère depuis 1970. Il s'étonne par ailleurs qu'à ce jour, cette villa soit attribuée au député national André Mbata par le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou. Joseph Désiré Mobutu Kambalé est au micro de Paul Matendo.
Dans notre propre pays, nous vivons comme des étrangers. C'est inacceptable. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, personnellement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Humblement, je viens m'adresser à vous pour solliciter votre implication personnelle. Le pays a déjà beaucoup de problèmes, ça nécessite que nous soyons dans l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut vaincre l'ennemi qui nous dérange du côté Est et à Litoune. Nous avons le devoir de soutenir notre armée, de vous soutenir comme commandant suprême. Pour mon cas, je suis dans mes droits. Les décisions exécutées ont été rendues en bonne et due forme. Je demande humblement que vous vous imprégniez de ce dossier pour pouvoir retourner dans mes droits. Que ma parcelle me soit restituée parce que cette parcelle-là n'appartient pas à l'État. Ça fait 43 ans aujourd'hui. Nous sommes en conflit, moi et M. Ibrahim. On ne sait pas depuis quand, sur base de quel élément. Et le ministère dirigé par le ministre Pius s'est appuyé pour pouvoir nous mettre dehors là où il y a un arrêt de la cour d'appel.
Contacté, Pius Mwabilou, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a préféré ne pas faire de commentaires à ce sujet. Et puis, lancement ce samedi à Mbandaka de la campagne d'inscription gratuite de tous les enfants de 6 à 7 ans à l'école. Cette année scolaire 2022-2023, elle cible au total 450 366 enfants à travers la province de l'Équateur. Une caravane organisée à travers la ville a marqué la cérémonie et le ministre provincial intérimaire de l'éducation, Papi Ekaté, a invité les parents à inscrire tous les enfants en âge scolaire. C'est en vue de profiter de la gratuité prônée par le chef de l'État. En appui, l'UNICEF a procédé à la distribution des objets classiques aux élèves de l'enseignement classique et des centres de rattrapage scolaire. Le chef de bureau intérimaire de l'UNICEF revient ici sur les différents appuis de son agence à la gratuité dans le Grand Équateur. Docteur Paul Komba l'a dit au micro de Paul Richard Malengela.
C'est déjà plusieurs choses à la fois. Nous avons le plaidoyer. Cette cérémonie s'inscrit dans cette perspective, mais c'est aussi un appui direct à l'inscription des enfants qui n'y ont pas accès. C'est aussi une fourniture scolaire. On va couvrir 88 écoles qui ont été ciblées parmi les plus défavorisées. C'est la formation des enseignants, mais aussi l'inscription d'enfants en retard de démarrer leur scolarité au rattrapage scolaire et aussi avec des fournitures. Mais nous avons aussi un programme programme plus ambitieux sur la construction des écoles. À travers tout l'ancien espace de l'Équateur, nous en avons fait 5 à la Choapa, nous en avons 6 à l'Équateur, 6 autres construites au nord au Bangui, la fourniture en banc et autres matériels scolaires. Enfin, nous avons un focus un peu particulier sur les jeunes adolescentes, parce que les jeunes filles ont des spécificités, notamment par exemple l'hygiène menstruelle et ne viennent pas à l'école. Nous avons aussi des kits spécifiques scolaires que nous allons destiner à cette catégorie de jeunes pour justement promouvoir l'égalité des chances en milieu scolaire entre les jeunes filles et les jeunes garçons.
Pendant ce temps, Maïndombe, les inspecteurs de l'enseignement de la province éducationnelle Maïndombe 1 sont appelés à remplir les missions leur dévolues de lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Cela pour être performant sur terrain afin de rendre service de qualité et pour que l'éducation aille de l'avant. Cette déclaration est de l'inspecteur principal provincial de cette juridiction, Zéphirin Kalutoso Kachioko. Il a dit à l'occasion de la clôture jeudi à Inongo des assises sur l'évaluation des activités annuelles exercice 2021-2022. On l'écoute au micro de Irène Mbouma.
L'inspecteur a 3 missions. Ces 3 missions sont les contrôles, la formation et l'évaluation. Et nous savons très bien que ces missions ont plusieurs activités dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 à 2025 en respectant l'ODD 4 qui prévoit que ces activités peuvent aller jusqu'en 2030. Nous voulons que l'enseignement puisse aller de l'avant. Et vous savez aussi que pour consolider et pour pérenniser la gratuité, nous avons tout intérêt de pouvoir renforcer les capacités des inspecteurs pour qu'ils soient performants sur le terrain. Nous voulons que nous puissions suivre tous les acteurs pour que la consolidation de la gratuité que nous avons obtenue soit pérennisée à travers des actions de créativité et d'originalité. Aux inspecteurs, je leur demande de respecter les recommandations qui nous ont été dictées par la hiérarchie. Le message, c'est l'abandon des antivaleurs et la place réservée au travail bien fait, au rapport de qualité. Lutte contre les antivaleurs.
Au Nord Kivu, la MONUSCO, à travers sa section conduite et discipline CDT, en partenariat avec l'ONG Samani Yamazengira, a procédé ce samedi à la distribution des kits scolaires aux enfants vulnérables et victimes d'abus commis par le personnel des Nations Unies. Plusieurs dizaines d'enfants de cette catégorie répartis dans plusieurs écoles de la ville de Goma, ciblées par ce projet, ont reçu des cahiers, stylos, sacs à dos et autres fournitures scolaires qui couvrent leurs besoins pour cette année scolaire. La mère d'un de ces enfants, bénéficiaire de cette assistance, salue l'accompagnement de la MONUSCO dans la scolarité de leurs enfants. Elle s'exprime au micro de Radio Kapi.
Oui, moi je suis l'une des mamans. Nous remercions la MONUSCO pour la prise en charge scolaire de ces enfants, mais cela ne signifie pas que les droits de ces enfants, nous ne contestons pas, mais qu'ils mettent fin à ces dossiers, puisque l'assistance ne suffit pas. Cela ne mettra pas fin aux besoins de ces enfants. Les enfants grandissent, qu'ils cherchent des endroits où ces enfants vont vivre et grandir. La MONUSCO n'est pas les parents de ces enfants. Aujourd'hui, l'un des parents peut mourir dans son pays. Où est-ce que nous irons plaider? Nous sommes venus à la MONUSCO pour chercher une solution par des assistances. C'est notre souci. Il cherche pour chaque enfant une chance de mourir et de s'arrêter avec les avis des locataires.
Selon les responsables de l'ONG Siam, la même activité s'est déroulée ce samedi à Beni et à Bounia dans un avenir proche dans d'autres villes où cette catégorie d'enfants a été identifiée. Signalons que le coût total du projet qui s'étale sur une année s'élève à 329 000 dollars américains et concerne plus de 300 personnes vulnérables. Et puis, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire a eu un tête-à-tête avec la presse locale vendredi à Bukavu. Dans son mot introductif, Bruno Le Marquis a mentionné que la RDC occupait la première place des cas de malnutrition sur l'échiquier mondial et encore premier en Afrique en termes de déplacés internes. Pour le Sud Kivu à lui seul, 16% de la population vit en insécurité alimentaire. Jean Kassami nous en fait le point.
D'après les coordonnateurs des affaires humanitaires en République démocratique du Congo, le pays compte 27 millions de personnes qui souffrent de la malnutrition. Toujours et encore, la RDC renferme 5,5 millions de déplacés internes. Bruno Lemarquis propose quelques pistes de solutions.
Que les partenaires qui travaillent dans le développement, les partenaires qui travaillent dans l'humanitaire, travaillent de manière coordonnée avec les autorités provinciales pour s'attaquer à certaines des causes qui créent les besoins humanitaires, par exemple la question des infrastructures routières, des infrastructures de transformation agricole, etc.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies a tenu aussi à lever l'équivoque en établissant la nuance entre la MONUSCO et les Nations Unies.
C'est vraiment important que vous compreniez que la MONUSCO, c'est un membre d'une famille, les Nations Unies. La famille en RDC, elle a 24 membres. Et on peut rajouter au moins une dizaine d'autres membres de la famille qui travaillent avec la RDC, mais qui ne sont pas en RDC. Beaucoup de gens, Nations Unies égale MONUSCO. Enlevez-vous ça de la tête.
Bruno Marquis a informé la presse qu'il a échangé avec le gouverneur du site Kivu sur la transition de la MONUSCO en RDC. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En international, un nouveau gouvernement a été formé au Sénégal hier samedi dans la soirée après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Il compte 38 ministres au total, dont 8 femmes et 8 jeunes. Une équipe présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises.
L'invité.
Deux semaines après la rentrée scolaire, la gratuité de l'enseignement peine à se mettre en place dans certaines écoles de Lubumbashi. Déjà, quelques responsables des établissements scolaires sont suspendus par les autorités de ce secteur pour non-respect de ce principe. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal l'inspecteur provincial principal au Katanga 1, Grégoire Mouka. Il s'entretient ici avec Jean Gandou. Suivez.
Grégoire Mouka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
Après la rentrée scolaire, vous avez effectué des visites dans certaines écoles de Lubumbashi, dites-nous, est-ce que la mesure portant sur la gratuité de l'enseignement est respectée dans ces écoles?
La lutte pour la mise sur pied de la gratuité est une lutte constante et permanente. Nous devons être vigilants. C'est pour cela que nous sommes allés dans quelques écoles pour vérifier ce qui se fait sur place. Et nous avons constaté qu'il y a des écoles qui demandent 40 dollars pour l'acquisition des bancs. Il y a des écoles qui exigent la tenue de gymnastique. Ce sont toutes des choses qui vont à l'encontre de ce que le ministre national de l'enseignement a interdit. Eh bien, nous sommes descendus dans les écoles qui posent ce genre d'actes pour interdire que cela se fasse. Ceux qui n'obtempéreront pas seront suspendus. Il y en a déjà d'autres qui l'ont été.
Après ces constats, quelles sont les mesures que vous avez prises à ce propos?
Il y a déjà des mesures de suspension qui frappent bon nombre de chefs d'établissement. Ces mesures-là ont été peut-être prises par les chefs de sous-division, mais nous, nous allons entériner ces mesures-là. Pour soutenir les mesures qui ont été prises par nos amis chefs de sous-division ou les inspecteurs chefs de poule, parce que ce sont des mesures salutaires pour les parents et pour les enfants congolais qui doivent bénéficier de la gratuité de l'enseignement.
Depuis la rentrée scolaire en cours, combien de chefs d'établissement scolaire ont été sanctionnés pour n'avoir pas respecté la gratuité de l'enseignement?
Une dizaine et les mesures continuent à tomber.
Quel appel faites-vous aux parents qui seraient soit victimes ou complices dans la non-application de cette mesure?
Les parents ne nous aident pas. Les parents vont dans ces écoles et par des portes dérobées s'acquitter des frais illégaux qui sont exigés par les chefs d'établissement qui ne veulent pas se mettre dans les rangs. Nous, les autorités scolaires, nous leur demandons de ne pas payer les frais illégaux dans les écoles. Bientôt, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, va signer son arrêté. Cet arrêté reprendra la nomenclature des frais qui peuvent être payés par les parents. Nous allons assister à un comportement inacceptable de certains parents qui vont payer des frais non autorisés et des frais illégaux. Les parents doivent soutenir les autorités scolaires que nous sommes parce que nous sommes en train de nous battre pour une bonne cause, la cause des enfants. Je les invite à ne pas payer les frais illégaux qui sont exigés par des chefs d'établissement véreux, qu'ils se liguent comme un seul homme pour faire front commun et s'opposer au paiement de ces frais. Nous sommes avec eux dans cette lutte-là. Ce n'est qu'à ce prix que la gratuité va s'asseoir confortablement dans notre province.
Ne pensez-vous pas que cela arrive tard quand on sait que les parents avaient déjà payé ces frais que vous qualifiez d'illégaux?
Si nous avons l'information, nous allons demander à ces écoles de rembourser. J'étais au lycée Twendele. Nous avons appris que l'école secondaire fait payer 35 000 francs aux élèves pour l'acquisition de la tenue de gymnastique. J'ai intimé l'ordre à la sœur préfet de procéder au remboursement de 35 000 francs. Et moi-même, je m'y rendrai régulièrement pour voir si les 35 000 francs vont être effectivement remboursés. Voilà le genre de mesures que nous prendrons à l'endroit de tous ceux qui ont perçu des frais de manière indue. Eh bien, ces frais devront être remboursés. Ils vendent leur tenue de gymnastique à 35 000 francs. Il y en a en ville, dans certains magasins, à 10 000, 15 000 francs. Pourquoi les enfants doivent nécessairement acheter là où la tenue coûte 35 000 francs? Ils avaient exigé cela et ils ont perçu de l'argent. Ils n'avaient pas encore distribué la tenue en question. Et j'ai demandé aux révérendes sœurs de restituer les 35 000 francs aux enfants.
C'est seulement dans les écoles conventionnées catholiques que ce constat a été fait, ou cela a été aussi dans d'autres écoles?
Jusque-là, ce sont celles-là, mais je ne dis pas que ce sont seulement ces écoles-là, parce qu'il y a aussi des écoles privées agréées qui sont frappées. Hein. Vous avez dans la sous-division de Lubumbashi 2, il y a plusieurs écoles privés agréés qui sont frappés par la même mesure. Ces écoles-là ont plutôt exigé des frais à l'inscription.
Grégoire Mouka, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean Gandou.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Goy, coordonnée et supervisée par Noël Aluzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.